Je trouve que la vérité, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a tous nos propres vérités en fonction de notre microcosme, en fonction des gens qu'on côtoie, en fonction des expériences qu'on vit. Et effectivement, si vous voyez un 6, moi je verrai un 9, et ce sera quand même le même chiffre à la base.
Science, médias, démocratie, l'épreuve de vérité.
Véronique Marty, Laurence Di Félix.
Est-ce qu'un 6, c'est la même chose qu'un 9? Où se situe la vérité? Voilà la question qui va nous occuper durant toute cette semaine dans Vacarme. Car depuis l'apparition du Covid-19, l'hiver dernier, l'idée d'une vérité commune, étayée par les faits, établie par des méthodes scientifiques, semble s'effriter de plus en plus. Selon un sondage Tamedia, 30% des Suisses accréditerait la thèse du coronavirus développée en laboratoire. Et sur les réseaux sociaux, les thèses complotistes, parfois très farfelues, fleurissent. Si hier nous avions presque tous confiance dans la parole scientifique, politique ou médiatique, aujourd'hui, une partie croissante de la population considère cette parole comme mensongère. C'est une petite minorité, mais le mouvement existe bel et bien. D'où vient cette crise de légitimité? Qui sont ceux et celles qui développent aujourd'hui des vérités alternatives? Comment se répandent ces thèses? Et comment les institutions, les médias ou les chercheurs peuvent-ils répondre à ces doutes qui les remettent désormais en cause? Nous démarrons notre série le 12 septembre. Souvenez-vous, ce jour-là, plusieurs milliers de manifestantes et de manifestants se sont réunis sur la place des Nations à Genève pour se battre contre le port du masque obligatoire et pour exiger que les libertés individuelles soient rétablies. Voici « Tombe le masque », un reportage d'Arnaud Robert réalisé par Mathieu Ramsauer.
C'est pour ça qu'on est là, pour la liberté. On est ici pour manifester pour la liberté. Merci à tous les Suisses allemands qui nous rejoignent aujourd'hui. Grüezi, willkommen, benvenuti aux Italiens. Je rappelle qu'à ceux qui réclamaient des masques il y a 3 mois, en pleine pandémie, on leur interdisait de s'en procurer. On interdisait aux pharmaciens de vendre des masques également. Donc, aujourd'hui, on se bat pour la liberté, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Chacun doit être libre aujourd'hui. Voilà. Un autre point qui est très important, et ça c'est pour la presse également, qui fait souvent des amalgames, c'est que cette manifestation est totalement apolitique. On ne défend les couleurs d'aucun parti politique, qu'il soit de droite ou de gauche ou d'où qu'il soit. Nous sommes des citoyens libres. Tous ici présents, nous sommes des citoyens libres. Donc j'invite ici les journalistes qui sont présents juste avant de donner la parole aux autres de faire un travail d'information qui soit non orienté, qui soit honnête et pragmatique. Et je les invite à ouvrir le dialogue, à inviter sur les plateaux TV et à interviewer des médecins, des docteurs, des scientifiques qui aujourd'hui dénoncent une gestion de la crise Covid qui est devenue excessive, qui est devenue abusive, politique et totalement disproportionnée avec un discours dénué de toute argumentation médico-scientifique.
Je pense que vous êtes le seul avec un masque.
Ah, je suis le seul avec un masque, ouais. Ah, c'est vrai? Ah non, j'en vois aussi. Ah non, c'est vrai que je suis un peu le seul avec un masque. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah écoutez, ce que j'en pense personnellement de votre masque, eh bien, c'est un choix que vous prenez personnellement, mais je pense que c'est pas une nécessité, notamment pour votre santé.
Ok.
Voilà, merci.
Bonjour.
Ah. Bonjour. Je peux vous demander pourquoi vous êtes là?
Oui. Ah, c'est simple. Bah écoutez, ce qu'on combattre toutes les, comment dire, les lois liberticides, l'abus des gouvernements, parce qu'il n'y a pas qu'un gouvernement, c'est les gouvernements qui nous obligent à faire des choses qu'on ne veut pas faire, à restreindre nos lois et ainsi de suite. Ça, c'est hors de question. On se battra, on prendra les armes s'il le faut.
Et je vois sur vos pancartes, il y a plein de messages.
Voilà, hier tous confinés, aujourd'hui tous masqués, demain vaccin obligatoire avec nanoparticules connectées à la 5G, parce que c'est ce qu'il est question.
Demain vaccin obligatoire avec nanoparticules connectées à la 5G.
Et ensuite, ou avec l'ADN modifié.
Ou avec l'ADN modifié.
Propose Bill Gates, notre cher ami Bill Gates, qui est plutôt un criminel, et non pas un philanthrope, il ne l'est pas, c'est pas vrai. Faut pas faire croire ça aux gens, c'est un criminel.
Et voilà. C'est à partir de quel moment que vous avez entendu cette hypothèse selon laquelle l'objectif de tout ce qui se passait en ce moment lié à la pandémie, c'était d'injecter des puces à travers des vaccins, dans quoi l'essentiel de l'humanité?
Oui, voilà, exactement.
C'est quand vous avez entendu ça pour la première fois?
Alors ça, si vous voulez, bon, déjà dans un premier temps, quand on a eu les 15 premiers jours de confinement, au départ, je me suis dit, ok, c'est un virus, ok, d'accord. Et puis après, quand j'ai vu un petit peu la tournure que ça prenait, j'ai dit non, c'est pas possible. Si vous voulez, au départ, c'est simplement le bon sens qui fait que non, ça va pas. Et j'ai commencé à recevoir des informations et ainsi de suite. Alors bien entendu, les informations, parce qu'il y a aussi du fake, alors on les vérifie, on regarde dans différents endroits, est-ce qu'on retrouve les mêmes points de vérité, et ainsi de suite. Alors concernant Bill Gates, simplement, il a déposé des brevets, donc c'est pas compliqué. Vous tapez le brevet et vous tombez dessus. Et c'est là que vous voyez que cet homme, il est simplement cinglé.
Un brevet sur quoi, monsieur ?
Sur les brevets concernant les vaccins à la nanoparticule. Hein, et puis, le fait de diminuer la population, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il dit lui-même. Il veut réduire de 10 à 15% la population.
Donc, dans quel objectif ?
Ah bah, si vous voulez, c'est apparemment, ce serait apparemment pour se mettre, eux, à l'aise. Alors, il n'y a pas que Bill Gates, hein, il y a Soros, les Rothschild, Rockefeller, on a aussi Emmanuel, comment il s'appelle ? Ah, je ne me souviens plus son nom. C'est un gars qui est pour l'intelligence artificielle. Il est même question, j'ai vu, d'aller glisser des piles avec des électrodes qui sont reliées au cerveau. Faut arrêter, quoi. Non. C'est des psychopathes, il faut s'en débarrasser. Mais il faut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Vous savez, c'est comme la mauvaise herbe. Si on n'enlève pas toute la mauvaise herbe, elle repousse. Donc, faut tous les dégager.
Je suis très ému de voir autant de monde aujourd'hui. On avait tablé sur 300 personnes. La première fois que je suis allé voir la police pour obtenir l'autorisation, j'avais annoncé 300 à 600 personnes. Si on a 800, je serai content. Vous me mettez la chair de poule.
Chloé Framery.
Bonjour Arnaud. Arnaud comment déjà ? Arnaud Robert.
Vous attendiez à ce qu'il y ait du monde comme ça ?
En fait, je m'y attendais, oui, je m'y attendais, puisqu'à Zurich, on était déjà au moins 10 000, et je sais qu'il y a un mouvement qui monte, qui comprend que les libertés sont en train d'être entachées, entamées, et que notre démocratie est en jeu en ce moment. Donc il est temps de se réveiller et de venir réclamer nos droits fondamentaux, tout simplement, celle de s'informer, celle de s'exprimer, celle de respirer, celle de vivre.
Nous, on se revoit bientôt, d'accord, Chloé ? Je vais vous laisser là, parce que vous avez plein de trucs à faire. Vous allez parler tout à l'heure ?
Oui, je vais faire un petit discours.
À tout à l'heure.
Idrissa Berkane est parmi nous. Il était à Paris hier, demain il sera en Italie. Il tourne, il se bat pour défendre les causes qu'on défend aujourd'hui. Idriss, c'est à toi.
Vous êtes réunis ici avec une détermination qui m'impressionne. Vraiment. En plein soleil, devant les Nations Unies, à deux pas de l'OMS. Je veux qu'on s'entraîne ensemble à rappeler ce point simple. Le pouvoir, c'est nous. Dites-le. Le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Moi, j'ai suivi de près la crise du Lancet. La crise dans laquelle le plus prestigieux journal scientifique du monde a publié des données qu'il savait fausses. Ça commence par la documentation scientifique, ça continue dans la presse et ensuite ça atteindra le pouvoir judiciaire. N'en doutez pas. C'est le pouvoir judiciaire qui viendra pour vos libertés, aucun autre. On vous fera passer pour des criminels. Le pouvoir, c'est nous. Merci.
Chloé Framery. Ici, c'est quoi votre poste de contrôle, le remords à Genève?
Le remords, c'est un des seuls endroits à Genève où je peux avoir du jus de carotte et du jus de fruits frais. Et j'adore ça. Donc voilà, c'est ici que je donne rendez-vous aux gens qui veulent me rencontrer.
Quand on parle au téléphone, comme je l'ai fait avec vous l'autre jour, très vite, vous me dites « J'ai été mariée avec un pervers narcissique ». Et vous dites ça avec beaucoup d'émotion dans la voix et un peu dans cette idée qu'il y a une injustice fondamentale, très intime, d'emblée dans votre vie, qui vous mène à questionner dans des mouvements d'extrême gauche les injustices plus globales.
Alors, plus qu'une pensée, c'est une constatation. Je vois que dans toutes les familles, il y a eu des problèmes, il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, il y a eu des injustices. Et quelque part, moi qui suis hypersensible, j'y suis plus sensible que quelqu'un d'autre. Et du coup, ça a créé chez moi une forme d'allergie à tout ça, aux mensonges et à l'injustice. Et toutes les personnes qui sont hypersensibles comme moi, on peut dire aussi HP, hein,
au potentiel,
voilà, ressentent ces choses-là puisque tout est exacerbé. Et cette pensée en arborescence qu'on a nous permet aussi de faire des liens et de comprendre des choses que peut-être d'autres personnes ont du mal à comprendre, sans vouloir du tout dénigrer, hein, on est tous différents. Mais disons que ça nous permet de voir un petit peu où est le nœud du problème, souvent de façon différente que les personnes qui pensent un peu plus de façon linéaire, disons.
Bonjour. Aujourd'hui, jeudi 21 mai, regardez où je suis. Devant l'OMS. Et oui, l'Organisation Mondiale de la Santé. Regardez le bâtiment comme il est joli derrière nous. Alors l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est une organisation spécialisée de l'ONU qui a été créée le 7 avril 1948 et financée par la Fondation Rockefeller. Et oui, la même fondation qui avait financé la réforme de la médecine pour interdire la médecine naturelle et promouvoir la médecine des labos pharmaceutiques. L'OMS, qui a déclaré la pandémie le 11 mars dernier, de façon mondiale, et qui pourtant, à sa tête, n'a pas de médecin. C'est-à-dire que le directeur, vous savez, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ouais, je sais, c'est difficile à dire, mais je me suis entraînée, il n'est pas médecin, et non.
Chloé Framery, je vois maintenant un peu mieux les fondations de votre pensée. Aujourd'hui, à la fois un sentiment d'injustice intime et universel, à la fois un système qui cache des éléments essentiels, et puis autre chose, ah oui, c'est la découverte aussi du politique et de l'engagement politique pour vous. Et j'ai l'impression que tout ça trouve son expression la plus claire lors de l'émergence des Gilets jaunes.
Alors, les Gilets jaunes, pour moi, ça a été simplement une cristallisation de toutes les causes que je défendais déjà avant, comme monnaie pleine, comme la dette publique qui est fabriquée à partir de l'argent qui est produit par les banques, comme les mouvements pour protéger les enfants qui sont victimes des abus des services de protection, soi-disant, des mineurs. C'était simplement la synthèse de toutes ces injustices institutionnelles et c'était l'indicateur d'un réveil citoyen assez global, assez universel et assez hétéroclite, dans lequel je me reconnaissais, puisque moi-même, je ne suis pas dans une case, je ne suis pas univoque, mais simplement ce qui rassemble tout ça, ce qui est le dénominateur commun, c'est la justice, la vérité, la liberté. Et donc les Gilets jaunes représentaient toutes ces valeurs pour moi, en France. Alors ce mouvement, comme vous le savez, a été fortement réprimé par la police, à coup de LBD d'ailleurs qui était fabriqué sur notre territoire, et à coup de matraques et de gaz, etc. Et heureusement, en Suisse, on n'a pas vécu du tout ça. On a fait des actions en tant que Gilets jaunes, mais toujours de toute façon pacifique, évidemment. Et le mouvement a été un petit peu moins fourni. Il faut dire aussi qu'en Suisse, les gens ont des conditions de vie qui sont peut-être un petit peu meilleures qu'en France, et que le peuple suisse, je trouve en tout cas, est plutôt discipliné, plutôt obéissant.
Amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous mes amis et avec les Gilets jaunes. Un mouvement des Gilets jaunes qui se répand et qui arrive jusqu'en Suisse. Vous nous voyez aujourd'hui aux couleurs de la Suisse car nous invitons aujourd'hui Chloé Framery, donc Suisse, Belge, Française. Oui, mais okay. Suisse surtout.
Ouais.
Il y a une vidéo effectivement très vue, très partagée. Où vous êtes aux côtés de Dieudonné en gilet jaune, justement. Vous vous êtes pas dit, je passe là une étape dans la marginalisation vis-à-vis de l'institution, c'est-à-dire effectivement vous saviez à quel point Dieudonné est aujourd'hui controversé, il a été condamné, effectivement il a posé sur scène avec des révisionnistes. Et est-ce que ça vous vous êtes dit ça va pas polluer mon image publique?
Alors en fait moi j'agis toujours mais sans penser à l'image que je donne, puisque ce qui compte pour moi c'est mes valeurs et c'est ce qui me paraît juste. Après mon image, j'ai envie de dire que c'est pas très important pour moi, la cause est bien plus importante. Si je dois être dégommée et brûlée vive sur la place publique, ça me dérange pas tellement. Moi ce qui m'intéresse c'est que les gens prennent conscience du monde dans lequel on vit. Si je dois me sacrifier pour ça, bon ben soit. J'estime que ce qu'on vit est trop grave. Les mensonges qui sont par exemple proférés sur lui ont assez duré, parce que je vais quand même parler, j'ai bien vu quelle personne c'est pas du tout, mais pas du tout, c'est même complètement l'opposé de ce qui est décrit dans les médias depuis 20 ans. Je trouve ça honteux de le diffamer à ce point. Donc je voulais aussi participer à dédiaboliser quelqu'un qui a vraiment du cœur. Je trouve vraiment ça, là ça m'émeut parce que je trouve ça tellement grave de se tromper sur quelqu'un pendant aussi longtemps et de perpétrer les mensonges, que je trouve que là, le mensonge a assez duré. 20 ans c'est bien, donc il est temps que ça change.
Elle est juste à côté, elle est à 300 mètres là-bas. Et Gavi, tout comme l'OMS, et dans les mains de qui vous savez? De Bill Gates, bien sûr. Et donc, j'ai choisi d'en faire une petite vidéo comme ça, pour moi, en fait. Et apparemment, cette vidéo a fait plusieurs millions de vues. Et apparemment, vous l'avez vue. Et j'ai été creusée un peu plus loin, je me suis dit, quels accords il y a entre Gavi, l'OMS, nos autorités? Pourquoi nos autorités s'acharnent-elles à nous mettre en cage? Eh bien, en fait, il y a peut-être des raisons qui ne sont pas montrées dans les médias officiels, qu'on ne voit pas à la RTS, ni même sur les mots bleus, et encore moins dans nos journaux, qui appartiennent à Ringier et à TX Group Extamedia.
Chloé Frameri, vous dites éveillée. Vous savez que je fais une série sur la vérité, hein, et ça a un rapport avec ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans votre vision du monde, il y a beaucoup de gens qui soit mentent délibérément, mais soit sont aussi recouverts par le mensonge des autres. Et peut-être que pour vous, j'en fais partie, hein, parce que vous dites que je travaille pour un média officiel. C'est quoi la vérité pour vous? Et ça veut dire quoi d'être éveillée?
Alors déjà, je trouve que la vérité, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a tous nos propres vérités en fonction de notre microcosme, en fonction des gens qu'on côtoie, en fonction des expériences qu'on vit. Et effectivement, si vous voyez un 6, moi je verrai un 9, et ce sera quand même le même chiffre à la base. Donc ne soyons pas trop péremptoires dans nos jugements et acceptons que tout le monde ait sa propre vérité. Moi je pense que, et là j'en viens à une interprétation, je pense que la majorité des gens ne sont pas des personnes malveillantes, ne sont pas des menteurs, ne veulent pas le mal d'autrui, au contraire, mais parfois font preuve d'un certain conformisme qui les maintient dans des croyances qui font des groupes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à penser différemment ou à remettre en question certains fondamentaux du groupe, on a le risque de se faire exclure, et c'est totalement humain de ne pas vouloir risquer cette exclusion. Moi, j'ai perdu des amis, perdu dans le sens où je m'en suis éloignée, puisque nous n'avions plus tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Et ça m'a fait mal, quelque part, parfois. Mais j'ai aussi retrouvé d'autres personnes avec qui je pouvais développer des sujets qui m'intéressaient, échanger des points de vue différents, et avec lesquels je me suis beaucoup plus enrichie, finalement. Eh bien, tant pis, on évolue, on est amené à rencontrer des gens, à en perdre certains, à en gagner d'autres. Et l'éveil, pour moi, c'est d'être justement ouvert à remettre ses points de vue en question, parce que je pense que dans la vie on évolue de toute façon, on se transforme, et qu'une vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain, et que c'est pas grave de changer d'avis, que c'est pas grave de se rendre compte qu'on nous a peut-être menti, ou peut-être que les choses ne sont pas tout à fait comme on l'espérait ou comme on le voyait, et qu'au contraire d'avoir une sorte d'éclairement sur les choses, c'est-à-dire qu'on met la lumière là où la lumière n'est pas mise habituellement, ça nous permet d'avoir un peu une meilleure vue d'ensemble de la situation et de pouvoir agir en conséquence.
Et maintenant, pour conclure, avec un petit peu de légèreté, qu'on s'amuse quand même un petit peu, hein, je vous demande d'accueillir Brio, qui va nous interpréter quelques chansons.
Bonjour tout le monde. Wow. Je vous propose une chanson qui s'appelle Corona Minus.
Samy Zaibi, on est le 14 septembre. Je vous ai vu il y a deux jours sur la place des Nations à Genève. Pourquoi est-ce que vous étiez derrière les barrières de sécurité et qu'est-ce que vous faisiez avec une caméra ?
Alors, je suis depuis deux mois infiltré dans le groupe de complotistes franco-suisses basé à Genève et à Lausanne. Pour IT News, je fais une série d'articles, une exploration, comme ils l'appellent. Donc, je me suis fait passer pour un journaliste débutant, un peu perdu, qui, après avoir bossé avec la presse généraliste, décide de claquer la porte des grands médias et de bosser autrement. Et de bosser justement pour cette chaîne YouTube Agora TV, qui fait des vidéos complotistes de contre-information, contre le coronavirus et contre les politiques étatiques.
Et donc depuis deux mois, Samy Zaibi, vous êtes infiltré dans la constellation qui entoure la chaîne de télé Agora TV, autour notamment de cette femme que j'ai vue sur la place des Nations, Chloé Frameri. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce mouvement ?
J'ai appris plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Déjà, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'avais peut-être ce préjugé un peu de rencontrer des gens déjà aux marges du système, déjà dans ses limites. Et j'ai découvert l'incroyable diversité des gens qui accréditent ces thèses. J'ai rencontré deux professeurs de gymnase qui participent aux réunions secrètes hebdomadaires de cette sphère. J'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des gens vraiment de tous les étages de la société, de tous les horizons. Ça, c'est une des choses qui m'a étonné. Une des autres choses qui m'a étonné, c'est la proximité avec le mouvement Gilets jaunes. Plus je m'enfonçais dans la complosphère, plus j'arrivais dans la sphère des Gilets jaunes. Et c'est des gens qui ont créé un réseau physique, un réseau numérique pendant les Gilets jaunes, basé autour de cette idée de rejet des élites, et qui l'ont en quelque sorte recyclé à l'aune du coronavirus, autour du complotisme, autour de l'idée que tout ce qu'on vit est manigancé.
Alors Samy Zaibi, vous vous posez la question finalement de la légitimité de votre méthode, de notre méthode, de la méthode que nous partageons, celle des journalistes, et en quoi est-ce qu'elle est supérieure en termes de légitimité des sources à celle de ceux que vous qualifiez de complotistes qui ont leurs propres sources, qui ont leurs propres canaux d'information.
Oui, tout à fait. Alors, plus je m'enfonçais dans cette complosphère, plus je me remettais moi-même en doute. Donc, j'ai pas commencé à accréditer leur thèse. J'ai pas commencé à croire que Bill Gates a créé le coronavirus, encore moins qu'il y a des puces dans les vaccins qui sont en train d'être préparés et il y aura des puces dans ces vaccins qui vont être mis en lien avec la 5G pour maîtriser la population mondiale et la réduire à 50 millions. Non, j'ai pas accrédité ces thèses, mais j'ai plutôt remis mon propre rapport à l'information en question. Je me disais, qu'est-ce qu'on leur reproche à ces complotistes, au fond ? On leur reproche de reprendre des faits et de les recracher. Mais au fond, ce que je fais, c'est la même chose, qu'on fait tous la même chose, simplement avec d'autres médias qu'on considère comme fiables. Mais qui a dit qu'ils sont fiables ? Non pas que je remette en doute la RTS, Le Temps ou bien les médias qu'on considère comme de référence, mais juste sur la méthodologie de l'information, finalement, qu'est-ce qui nous sépare d'eux ? Est-ce que finalement, nous-mêmes, on recoupe les informations ? Pas forcément, tout un chacun ne recoupe pas forcément les informations, pourtant on croit qu'on est tous sur un socle commun de vérité inaliénable.
Et c'est quoi alors, à votre avis, qui fait la différence entre Agora TV et Le Temps, la RTS
Je pense que c'est la démarche du doute. Les complotistes, et c'est à ça qu'on les reconnaît, doutent de tout sauf d'eux-mêmes. Donc je pense que c'est là le point de bascule, c'est douter de sa propre information.
C'est vrai qu'on nous fait peur pour nous faire oublier les incroyables erreurs de nos élites cravatées.
Incarne.
Au nom de ma santé, sacrifierai-je ma liberté, sacrifierai-je ma liberté.
Et vous, comment construisez-vous votre vérité ? Dites-le nous au 058 236 236 0. Que pensez-vous des théories du complot ? Que pensez-vous des thèses qui circulent sur les réseaux sociaux ? Faites-vous confiance aux médias ? Un numéro pour nous le dire, le 058 236 236 0.
Vacarme, Véronique Marty, Laurence Di Félix, Arnaud Robert, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, et Mathieu Ramsauer.
Demain, nous suivrons un notable, François de Siebenthal, qui aujourd'hui soutient que la vérité n'est pas là où on l'imagine.
Alors, si plusieurs personnes unies, payées, sous chantage, pédocriminelles, s'organisent pour faire passer les directions de l'OMS dirigées par un terroriste avant nos autorités fédérales et confinent, ferment les frontières, poussent au chômage, détruisent la civilisation occidentale pour des motifs inavouables, alors oui, il y a une entente entre une minorité de personnes qui veulent tuer.
La faute aux pédosatanistes, c'est un reportage d'Arnaud Robert à découvrir demain dès 13h. Après Vacarme tous les jours, c'est Histoire vivante. Belle journée sur la